Les voies de service, mercredi 26 septembre 2018. Bonjour, bonjour Daniel.
Bonjour.
La chance qui est avec moi. Bonjour Maurice.
Bolduc,
bonjour. Bolduc, ça va bien mon affaire. Bonjour, mon nom est Isabelle Falardeau et je suis bien contente d'être avec vous aujourd'hui par cette belle journée. Presque pluvieuse, mais pas vraiment. Presque froide, mais pas vraiment.
Bon.
C'est la dernière journée où il faut en profiter là, avant qu'il fasse trop froid puis tout ça. Alors aujourd'hui, pour faire changement, parce que je suis sûre que vous n'en avez pas entendu beaucoup parler les dernières semaines, je vais vous parler des élections.
Il y a des élections
bientôt.
En fait,
j'avais réussi à m'en tirer sans le faire, mais je vais faire le tour en fait des quatre. J'ai trouvé quatre articles plus ou moins qui nous parlent des quatre partis principaux et de leurs déclarations là, par rapport aux Premières Nations.
Okay.
Mais c'est ça, vous allez voir que c'est assez inégal, mais je voulais pas parler d'un parti. Je suis partie d'un article en particulier qui était intéressant, puis là, mais je me suis dit, je peux pas juste mettre de l'emphase sur un seul parti. Voilà.
Bon.
Alors, j'ai essayé de faire le tour. Et puis, c'est ça, ça fait pas mal le tour de ce dont je vais vous parler aujourd'hui en première et deuxième partie. Puis, de votre côté, Daniel?
Bien, en première partie, je vais vous parler d'une chanteuse dont le premier film va paraître bientôt.
Ah, premier film comme actrice ou comme réalisatrice?
Comme actrice.
Ah, peut-être Lady Gaga.
Une certaine Stéphanie Germanotta.
Ah, c'est ça, c'est Lady Gaga. Il paraît qu'elle est très bonne. J'ai hâte d'en entendre
parler. Semblerait, oui, oui, oui. Et ensuite, en première partie encore, je vais vous parler d'un album célèbre qui va célébrer justement son 50e anniversaire cette année, dont il va faire l'objet d'une réédition.
Donc en 68, bon, je vais...
Vous êtes trop jeune pour ça.
Je vais garder le suspense. Oui, je n'étais pas née encore.
Je vais vous en parler tantôt.
Parfait. Merci beaucoup. Alors, je commence tout de suite avec les libéraux. Alors, les Premières Nations peuvent être une solution à la pénurie de main-d'œuvre, croit Couillard. C'est un article que j'ai pris dans le Huffington Post Québec et qui est paru le 19 septembre. Et puis, bon, M. Couillard en parle beaucoup hein, de la main-d'œuvre. C'est au centre de sa campagne électorale. Alors, il était à Rouyn-Noranda la semaine dernière. Et il mise sur le recrutement d'un plus grand nombre d'Autochtones pour résoudre le problème de pénurie de main-d'œuvre au Québec, dont, on le sait, là, il ne sert de faire état, il en a parlé beaucoup. Lors d'une tournée éclair de l'Abitibi, mercredi, donc éclair, en une journée, là, c'est quand même assez grand l'Abitibi, mais il a dû faire beaucoup de kilométrages. Il a donc répété ce message à 5 reprises, mais toujours en l'absence des Premières Nations. Le chef de Kibaouek, Lance Haymond, a été croisé au local électoral du candidat libéral Luc Blanchette et a affiché un certain scepticisme.
Mm-hmm.
Il a évoqué plusieurs grands défis, à commencer par la barrière de la langue. Pour les Autochtones qui sont anglophones, comme dans ma communauté, c'est une difficulté de plus, selon lui, et il évoque également le manque de formation et de transport et la grande distance qui sépare les réserves des villes. Le lac Simon, c'est à 30 km de Val-d'Or, a-t-il illustré. Ça va prendre du temps et des efforts. La veille, M. Couillard avait indiqué vouloir encourager les jeunes des Premières Nations à venir occuper des postes en restauration à Val-d'Or, parce qu'il était bon dans une succursale de la chaîne Subway qui est fermée indéfiniment, faute d'employés. Et donc, mercredi, devant les installations de la mine Agnico Eagle, il a aussi fait état du manque de main-d'œuvre spécialisée. La minière embauche des travailleurs du Québec, du reste du pays et de l'étranger, dont un employé qui fait le voyage des Philippines à tous les 14 jours. Donc ça, c'est un petit peu plus loin que 30
km. Oui, effectivement.
Hein. Mais très peu d'Autochtones. Donc, le chef libéral s'est engagé à offrir plus de formations techniques et professionnelles, en plus des cours de francisation en entreprise et d'incitatifs pour les retraités qui désirent retourner au travail à temps partiel. Il a insisté sur l'importance de respecter les différences culturelles et de rapprocher les peuples. L'approche par rapport à la vie, par rapport au travail, n'est pas la même. La pause pour la chasse à l'oie, par exemple, c'est excessivement prioritaire. Je pense qu'il est un peu influencé par M. Trump, hein, qui dit toujours « tremendous ».
Mm-hmm.
Et là, donc, excessivement, c'est excessivement prioritaire. Prioritaire, ça, c'était déjà...
Déjà, c'est suffisant. C'est superlatif, on n'en a pas besoin.
C'est dans le mode de vie, c'est dans la culture profonde des Premières Nations. Et ça, je peux en témoigner. Moi, j'ai grandi en Abitibi. Mm-hmm. Effectivement, pas nécessairement la chasse à l'oie seulement, mais effectivement, là, les périodes de chasse saisonnière... Les élèves autochtones dans la classe n'étaient pas là. Mm-hmm. Et effectivement, ça fait vraiment partie du mode de vie. Donc, M. Couillard dit « Je suis certain qu'on va avoir des grands succès dans l'intégration des Premières Nations au marché du travail. On doit l'avoir. » La pénurie de main-d'œuvre est au cœur même, je l'ai dit tout à l'heure, de la campagne des libéraux qui milite aussi en faveur d'une légère hausse des seuils annuels d'immigration. Mais pourquoi ne pas avoir pris les mesures nécessaires à l'avance pour éviter la crise? Et M. Couillard répond « On a pris des mesures qui ont tellement développé l'économie que le problème est devenu beaucoup plus apparent. » Autrement dit, on avait déjà le problème, mais ça paraissait moins parce que l'économie n'était pas aussi, aussi bien portante. Philippe Couillard s'est par ailleurs défendu de ne pas avoir rencontré les groupes de femmes lors de son passage à Val-d'Or et d'y suivre de près les travaux de la Commission Vien qui se penche sur le racisme systémique envers les Autochtones. Je suis très solidaire. Je présume que les recommandations seront de très bonne qualité. J'ai même demandé si la Commission, avant son rapport final, voyait des éléments évidents sur lesquels on pouvait agir tout de suite. Et donc, il a demandé que si la Commission voyait des éléments sur lesquels agir, il le ferait. La phrase était un peu formulée bizarrement. Dans la foulée du mouvement « Moi aussi », il prétend que les dossiers de conditions féminines sont toujours vivants dans notre société, même s'ils sont absents de la présente campagne électorale. Est-ce qu'il est un thème spécifique de la campagne? Pas nécessairement, mais le thème existe. Et en terminant, il nous rappelle que les électeurs sont préoccupés par la pénurie de main-d'œuvre. Et maintenant, vous allez nous parler de la grande actrice.
Oui.
Madame Gaga.
Oui, bien, premièrement, ça a attiré mon attention parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu l'original du film A Star is Born.
Ah, c'est ça, c'est une reprise d'un
film. C'est une reprise
qui a déjà...
d'une reprise, dans le fond. Ah, parce que je me souviens pas quelle année la première version avait été présentée, mais moi, je me souviens de la version des années 70 avec Barbara Streisand et Kris Kristofferson.
Ah, ben peut-être que je l'ai vu parce que j'ai vu pas mal tous les films
de
Barbara Streisand.
Ça, c'était déjà une reprise. Et on fait une nouvelle reprise aujourd'hui, mais il semblerait que ça vaut la peine. Donc, l'article, j'avais pris dans le Paris Match et ça s'intitule tout simplement Lady Gaga crève l'écran. Comme un retour aux sources, voilà 10 ans que l'artiste protéiforme, c'est un beau mot, hein?
Est-ce que vous avez la définition pour nous?
Ben oui, moi aussi ça m'a accroché un peu. Qui peut prendre les formes les plus variées qui se présentent sous des aspects très divers.
Donc ça s'applique très bien. Ça promet beaucoup en tout cas pour le film.
Ça s'applique très bien à la personne en tout cas. Donc voilà 10 ans que l'artiste protéiforme bouscule la planète électropop et squatte la tête des charts avec plus de 180 millions d'albums et de singles vendus à travers le monde. Quand même, c'est beaucoup, hein. Rockstar, mais par dépit. Ado, celle qui s'appelait encore Stéphanie Germanotta, rêvait de comédie jusqu'à ce qu'elle décide de faire carrière en enchaînant les tubes plutôt que les auditions ratées. Une rencontre, pourtant, va lever la malédiction. Bradley Cooper la convainc de prendre la suite de Judy Garland, ce que j'avais oublié, et
oui,
de Barbara Streisand.
1937,
Streisand.
Apparemment.
Voilà, OK, donc c'est ça.
Nous souffle à l'oreille.
Ça fait quand même...
vous étiez pas né, vous non plus.
Non, à ce moment-là, non. Donc, pour un remake de A Star is Born, qui sera en salle le 5 octobre. Sur grand écran, délesté de ses phares et de ses fanfreluches, la diva excentrique tape dans l'œil comme jamais, définitivement plus Lady que Gaga. Dès ses 12 ans, la petite New-Yorkaise, plutôt bourgeoise, intelligente, très sensible, elle a pris des cours d'art dramatique à l'Académie Lee Strasberg, puis à Tisch School of the Arts. « J'adorais jouer », avouait-elle en août dernier aux journalistes de Vogue. « Mais j'étais tellement nulle aux auditions. Trop nerveuse, je perdais mes moyens, je n'étais plus moi-même. » Difficile d'imaginer que la chanteuse-compositrice Showwoman à l'incroyable maîtrise scénique se laisse submerger par la peur quand il s'agit d'incarner un personnage. Mais la crainte aiguillonne le destin de Stéphanie. Elle l'a sobrement confié en 2009, expliquant la genèse de son triomphal album « The Fame Monster ». Chacune de mes chansons illustre une de mes peurs. Peur du sexe, de l'amour, de l'alcool, de la drogue, du travail, de la solitude, de la vérité. Un résumé de sa vie. Enfant prodige, né dans une famille pas du tout d'artistes allumés, père entrepreneur, mère dans les télécommunications, Stéphanie semble avoir toujours été tenaillée par la fièvre de la création. Au piano à 4 ans, la légende dit qu'elle a commencé à composer à 11.
Wow! Petit génie, quand même. Donc, c'est un enfant prodige. C'est vraiment spécial parce qu'on la connaît pour ceux qui ne suivent pas vraiment sa carrière personnelle, on la voit tout simplement comme effectivement une superstar de la chanson. Oui,
mais elle a une très bonne formation musicale. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu chanter du jazz avec Tony Bennett, entre autres. On voit qu'elle a une formation solide en musique. Hein. Ouais. Elle a l'oreille absolue en plus, c'est-à-dire qu'elle est capable de reconnaître une note sans référence auditive préalable. Ça, c'est très rare aussi. Bref, elle a l'instinct du ton juste, ce qui n'apaise pas du tout ce monstre d'angoisse, malade de perfection. Son premier long métrage sera leur plus belle histoire d'amour, on parle avec Bradley Cooper, platonique, bien entendu. Ils se rassurent mutuellement, elle, la virtuose multitalent à la voix d'or, et lui, qui s'est entraîné pendant un an avec un coach vocal. Le comédien multi-récompensé va explorer avec finesse les douloureuses fragilités de l'actrice. À 32 ans, Stéphanie est rattrapée par ses traumatismes. Un viol à 19 ans par un producteur musical. J'ai gardé cela enfoui, j'ai essayé d'effacer les faits de ma mémoire. Et c'est ressorti comme un énorme monstre hideux. Excusez, je viens de peser sur ma tablette. Quelque chose qui a disparu.
En tout cas, jusqu'à maintenant, vous me donnez vraiment le goût d'aller voir le film.
On comprend mieux pourquoi, au début de l'année, elle a dû annuler les 10 derniers concerts de son Joanne World Tour, écrivant sur Twitter dans une déclaration d'amour à ses fans « Je suis tellement dévastée, mais si je n'annule pas, je ne pourrai pas être au plus près de mes mots et du sens de ma musique. Toujours ce refus de tricher, ce tout ou rien qui la dévore. » Bradley Cooper a su saisir cette pureté, cette vulnérabilité. En lui imposant un personnage timoré, sans maquillage, il a aidé à cette mise à nu. Dans certaines scènes, on perçoit une libération chez cette Ali, nature et déchirée. Gaga a chanté pour de vrai au festival de Glastonbury sous les caméras de Bradley. Je ne savais plus très bien si c'était moi ou Ali. C'était les deux. Sur le plateau, à cause de ses crises de douleur, il y avait des bons et des mauvais jours. Mais Stéphanie a tout donné. Elle est pressentie pour un Oscar.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, m'as juré. Alors je sens dans moi mon cœur qui bat.
La vie en rose par Édith Piaf.
Ah, c'est... il n'y a jamais de mauvaise occasion pour entendre la belle voix de Mme Piaf. Et ça nous fait un peu penser à... En fait, ça nous a été inspiré, j'imagine, par le fait que Lady Gaga a repris
cette chanson. Oui, absolument. Elle a fait une reprise dans le film A Star is Born. Mais étant donné que le film, c'est une reprise, on a décidé de faire jouer la chanson originale.
Voilà. Merci beaucoup. Alors, comme je vous disais, moi, j'ai essayé de faire le tour des quatre principaux partis du Québec sur leur position par rapport aux Premières Nations. J'avais trouvé un article, le premier article que je vous ai lu, c'est celui-là qui a attiré mon attention parce que ça parlait vraiment d'un enjeu qui touche autant le Québec que les Autochtones, parce que les Autochtones souffrent de chômage, puis le Québec de pénurie de main-d'œuvre. Et là, je ne vais pas séparer les deux. Les Autochtones vivent au Québec, mais le Québec en général et les Autochtones plus particulièrement. Donc là, je me suis dit, je ne vais pas parler juste d'un parti. Je vais chercher si les journalistes se sont intéressés aux autres partis. Et c'est assez inégal. Et là, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est parce que les autres partis n'ont pas accordé autant d'attention à ces enjeux-là. C'est simplement que la couverture n'a pas été la même. Et qu'il n'y a pas de
littérature dessus.
C'est ça. Il n'y a pas de journaliste qui a choisi de s'attaquer à ça. Alors, dans le cas du Parti québécois, j'ai trouvé deux articles plus généraux, dont une entrevue très, très longue que vous pourrez, si jamais vous avez, ça vous intéresse, là, c'est sur le site de Vice Québec, vice.com. Le titre de l'article, c'est « On a interviewé Jean-François Lisée ». Et une question à laquelle il répond, et par la bande, il parle des Premières Nations. Je vais vous citer l'extrait. J'ai aussi remarqué, lors du débat, que je suis le seul à parler des Premières Nations, de l'importance des Premières Nations dans notre histoire, à accepter l'offre des Premières Nations et des Inuits de tenir un sommet dans les premiers jours d'un nouveau gouvernement. D'ailleurs, je me suis dit comment ça se fait que ce n'est pas déjà une tradition. Bon, là, vous allez trouver que c'est bizarre que le chef péquiste dit qu'il est le seul à parler des Premières Nations, puisque
Je
viens d'en parler, puis les quatre... Mais enfin, c'est pas moi qui ai mis les mots dans sa bouche. Ça m'importe beaucoup, c'est toujours M. Lisée qui parle, ça m'importe beaucoup, et c'est dans l'histoire du PQ. René Lévesque a été le premier au Canada à reconnaître l'existence des Premières Nations et des Inuits sur notre territoire. Nous avons fait la paix des braves, qui est considérée par les Premières Nations comme l'étalon or des ententes avec les gouvernements. Et là, bien sûr, il ne parle pas de la paix des braves de 1701 qui avait été signée avec les Iroquois, mais bien celle de 2002, avec les Cris. Alors, tout ça m'intéresse. Et parmi les 18-30 ans, puisque la question, comme je vous ai dit, c'est une question à laquelle il répondait, donc ça portait sur les jeunes électeurs. Donc, et parmi les 18-30 ans, ce sont des thèmes qui leur sont particulièrement chers. Alors ça, c'est tout ce qu'il disait dans cette entrevue-là sur les Premières Nations, mais il y avait aussi un autre article que j'ai pris sur le site de rcinet.ca qui date du 27 août. Alors, le chef péquiste a par ailleurs accédé à une demande formulée par Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, qui réclame une rencontre dans les 100 premiers jours de mandat du futur premier ministre, quel qu'il soit. Donc, comme il disait, effectivement, il s'est engagé à répondre à cette demande-là. Mais j'ai aussi trouvé dans un autre article, qui n'est pas celui que je vais vous lire, mais un petit extrait, où déjà Manon Massé, dès le début de la campagne électorale, promettait, elle aussi, une rencontre dans les 100 premiers jours. Alors, c'est pas...
Donc, les 100 premiers jours, c'est toujours critique, là, pour...
Ben en fait, c'est parce que c'est ce que Ghislain Picard, le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, a demandé. Okay. Voilà. Je crois que c'est une idée merveilleuse, c'est M. Lisée qui parle, et je crois que ça devrait être une tradition. Je m'engage à rencontrer les Premières Nations et les Inuits dans les 100 premiers jours de mon gouvernement, bien sûr. Alors, voilà. C'est tout ce que j'ai trouvé sur le Parti québécois, mais je voulais vraiment donner la parole aux quatre partis. Mais comme je dis, vous pouvez l'article au complet, l'entrevue qui est très intéressante par ailleurs avec M. Lisée sur le site de Vice Québec, si vous voulez plus d'informations. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see.
all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night.
Blackbird par les Beatles.
Ah, c'est vraiment... J'entends des oiseaux chanter, là, ça commence bien la journée.
Oui, oui,
et
oui.
Et j'imagine que c'est cet album-là qui a 68 ans, qui a 68 ans, qui a 50 ans, donc qui date de 68. 68 ans.
Et devinez de quel album ça provient, ça, cette belle chanson de McCartney.
Blackbird...
Qui est signé Lennon McCartney, mais on s'entend que c'est seulement
c'est
McCartney
lui
qui l'a fait.
Oui.
Et ça vient de l'album blanc. On va pas
C'est l'album blanc. OK, parfait.
le White Album, dans le fond, qui n'a pas de titre, mais on l'a toujours appelé le White Album ou l'album blanc. Parce qu'il est blanc.
Parce qu'il était blanc, voilà.
Bon. Donc, un article d'Alain Brunet dans la Presse Plus du 24 septembre qui s'intitule « Giles Martin au cœur du White Album ». La réédition multiformat d'un opus studio des Beatles prévu le 9 novembre, donc c'est très bientôt, se consacre au fameux White Album. C'est nul autre que Giles Martin, feu de Sir George Martin, qui était nommé le cinquième Beatles pendant des années, qui a judicieusement travaillé au remixage avec le souci d'en préserver la facture sonore originelle. Le septième opus studio des Beatles, album homonyme dit l'album blanc, a été lancé il y a 50 ans, ou plus précisément le 22 novembre 1968, donc pas tout à fait 50 ans encore. Considéré comme l'un des plus substantiels du Fab Four, cet opus double comporte les classiques Back in the USSR, Dear Prudence, While My Guitar Gently Weeps, Blackbird qu'on vient d'entendre, Rocky Raccoon, Julia et autres Helter Skelter. Pour cette réédition, les enregistrements ont été remixés par Giles Martin, assisté de Sam O'Kell. Cette collection de 107 titres, il y en a seulement 30 là, sur le White Album.
Mais il va y avoir 107 titres qui vont être rendus disponibles, donc qu'on va pouvoir écouter avec une qualité sonore.
Oui, et disons que ça comprend des remixes de chansons originelles et plusieurs déclinaisons tirées des maquettes enregistrées à Asher, où se trouvait le domicile de George Harrison à l'époque. Les Beatlemaniacs savent que ces séances d'enregistrement ont été marquées par des tensions internes, causées notamment par la présence assidue de Madame Yoko Ono, nouvellement arrivée dans le décor. Sir George Martin s'était lui-même éclipsé quelques semaines pour des vacances prévues depuis longtemps et pour des raisons qu'on imagine. Giles Martin, fils du cinquième Beatle, aujourd'hui âgé de 48 ans, a œuvré dès son jeune âge auprès du paternel, notamment pour le projet de Beatles Love, qui avait été présenté par le Cirque du Soleil
à Las Vegas,
et mis
ça?
En scène par Dominique Champagne.
Oui, c'est vrai.
Dès le début de l'entretien téléphonique, il souligne d'ailleurs ses affinités montréalaises. « Votre ville a été mon deuxième chez moi. J'ai passé beaucoup de temps à Montréal lorsque je travaillais avec Dominique Champagne pour Love. Avec lui, j'ai travaillé à un autre show par la suite. Nous restons de bons amis. » Multi-instrumentiste, compositeur, réalisateur et remixeur de réputation internationale, Giles Martin a travaillé sur moult productions majeures, dont l'avant-dernier album studio de Paul McCartney ou le fameux remixage du non moins fameux album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Or, mon travail réalisé sur Sgt. Pepper's a été très bien reçu. Pour ce 50e anniversaire du White Album, j'ai dû de nouveau faire face aux décisions artistiques prises par mon père à l'époque. J'ai repris les pistes originelles des chansons, mais aussi les prises de son alternatives, les conversations de studio et les maquettes. Ce fut pour moi un grand privilège d'être à Abbey Road afin d'y mener ce travail et de revivre l'intégralité de ces séances d'enregistrement. Quel a été le travail de Giles Martin pour cette réédition? Il ne s'agissait pas de transformer ses enregistrements, tient-il à préciser. Il fallait plutôt faire en sorte que le public puisse faire l'expérience que j'ai faite moi-même en parcourant tous ces enregistrements. Il fallait être prudent et éviter la démagogie en prétendant améliorer les œuvres. En fait, l'objectif était d'améliorer le contexte de l'écoute de ce matériel, faire en sorte que l'auditeur s'imagine là où ces chansons ont été créées pendant ces séances qui ne se reproduiront jamais. Du coup, notre interviewé dit avoir évité d'inscrire les chansons du White Album dans une optique de perfection. Giles Martin et ses collègues ont tout écouté et sélectionné ce qui leur semblait être digne d'intérêt. Les versions allongées, les conversations pertinentes entre les musiciens, les incroyables maquettes inspirées de leur séjour en Inde, les chansons reprises ou impro inédites, ou même les formes préliminaires de titres célèbres ne faisant pas partie de l'album blanc, comme Revolution, parce que Revolution, il y a une version presque acoustique sur l'album blanc, mais il y a une version plus rock aussi qui avait été sortie seulement en single, qui apparaissait pas sur l'album. Hey Jude, Lady Madonna ou même Across the Universe. Ça reste super cool, s'exclame notre interviewé, encore sous le charme beatlesque. Pendant que nous vieillissons, conclut-il, les enregistrements préservent des moments de l'histoire. Ils sont en quelque sorte des verrouillages temporels.
Et donc, est-ce que vous savez sur quelle plateforme ça va être disponible, ça? Est-ce que je peux aller dans mon Google Play ou dans mon Spotify?
Je pense que ça va être disponible sur plusieurs plateformes.
Parce que là, on ne parle pas seulement, si je comprends bien, pas seulement de chansons qui sont rééditées, mais d'extraits, comme vous dites, de conversations.
C'est ça. On parle d'un coffret ici. Je ne me souviens pas s'il le précisait dans l'article, parce que j'ai quand même sauté quelques parties, mais, parce que c'était beaucoup plus long que
en
ça.
En tout cas, ça va être à suivre, parce que moi, ça m'a donné le goût de réentendre les classiques des Beatles. Et c'est ce qui met fin à la première partie de l'émission. On vous revient après une courte pause. À tout à l'heure. Ben, on est de retour. On a moins le temps pour aller faire pipi. On n'a pas de chanson. Mais c'est pas grave. Alors, moi, j'ai fait le tour. Donc, j'ai parlé des libéraux et du Parti québécois. Donc, le parti au pouvoir et l'opposition officielle pour l'instant. Mais là, maintenant, je vais donc vous parler de la position de Québec solidaire et de la CAQ. Et de votre côté, Daniel, dans cette deuxième partie?
Ben, on est encore dans les rééditions. J'ai parlé tantôt de White Album, mais je vais vous parler d'une réédition de John Lennon.
Ah, d'accord.
Oui, on va rester dans le thème Beatles.
Dans sa carrière solo.
Oui. Puis après, tant qu'à faire, je vais vous parler un petit peu du concert de leur célèbre confrère qui est venu la semaine dernière à Québec et à Montréal.
Ah oui, monsieur...
Un nom qui vous échappe, oui.
Harrison?
Non,
c'était McCartney qui était là. Non, c'est ça, Harrison, on l'entend dans notre tête.
Oui.
Merci beaucoup. « Alors, je commence tout de suite avec Québec solidaire. Alors, c'est un article que j'ai trouvé sur le site de l'Écho de la TUC. Moi, ça me fait toujours plaisir quand je réussis à sortir de mon carcan d'articles, toujours sur le site de Radio-Canada ou encore des fois dans le Journal de Montréal et très rarement dans d'autres quotidiens. Alors, c'est l'Écho de la TUC. C'est un article de Michel Scarpino. Québec solidaire dévoile ses engagements envers les peuples autochtones. C'est paru le 18 septembre. Alors, au lendemain de sa visite dans le Haut-Saint-Maurice, où il a rencontré les dirigeants du Centre d'amitié autochtone, le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, annonce les engagements de son parti envers les peuples autochtones. On souhaite financer davantage les centres d'amitié autochtone et créer un fonds pour faire rayonner la culture et les artistes autochtones. Ainsi, via un fonds, un gouvernement solidaire créerait une enveloppe de 7 millions de dollars pour soutenir le rayonnement des artistes, des langues et des cultures autochtones. De plus, ce même gouvernement, s'il était élu, verserait annuellement 1,6 million de dollars additionnels pour soutenir la mission des centres d'amitié autochtones. L'État québécois ne peut plus pelleter ses responsabilités dans la cour du fédéral. Un gouvernement solidaire va travailler main dans la main avec la société civile issue des Premières Nations, à commencer par les centres d'amitié autochtones, afin d'assurer que les services publics québécois servent mieux la population autochtone, que ce soit en matière de justice, de santé, d'employabilité, comme on parlait tout à l'heure, ou de services aux familles, un gouvernement solidaire s'assurera que des programmes spécifiques soient mis en place pour assurer la pleine participation des Autochtones à la société québécoise. C'est ce qu'a déclaré M. Nadeau-Dubois. La porte-parole Manon Massé, donc l'autre porte-parole, répond à l'appel lancé le 12 septembre dernier par le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, la PNQL, donc Ghislain Picard, en regard de 5 exigences. Le droit à la sécurité pour les Premières Nations, le respect intégral des titres et droits ancestraux et issus de traités. Ça, c'est toujours quelque chose d'assez litigieux, hein, et il faut tout le temps... Il y a plusieurs nations qui sont devant les tribunaux en ce moment et constamment pour faire respecter les traités. La réconciliation avec les Premières Nations, le développement d'une économie par et pour les Premières Nations et, finalement, des services respectueux de leur culture et mode de vie. Les revendications de la PNQL sont tout à fait légitimes. Et je réitère, c'est Manon Massé qui parle, je réitère l'engagement de mon parti à s'attaquer à ces enjeux importants. La position de Québec solidaire est ferme. Les Premières Nations ont le droit à leur souveraineté. Ça veut dire qu'elles ont le droit de décider pour elles-mêmes, de mettre sur pied des institutions qui leur sont propres et de gérer leurs ressources et leurs richesses comme elles le détermineront. Québec solidaire a toujours été favorable à ce que l'Assemblée nationale du Québec adopte la Déclaration des Nations unies pour les droits des peuples autochtones. Un gouvernement solidaire posera des gestes en ce sens et prendra chaque décision en impliquant les communautés concernées. Nous établirons un véritable partenariat, dit-elle. Et finalement, elle s'est aussi engagée, je le disais plus tôt, à tenir une rencontre avec les chefs des Premières Nations dans les 100 premiers jours d'un gouvernement solidaire, pour parler des enjeux qui touchent leur communauté. Alors, on est encore avec les Beatles.
Oui, oui, vous nous avez nommé...
Prochain sur votre liste.
Je vous avais nommé George Harrison tantôt.
Oui, M. Harrison et M. Lennon.
Je vais vous en parler un peu.
Ah,
immédiatement,
bon.
Oui.
Excellent.
Le titre de l'article, c'est « John Lennon et George Harrison réunis sur une version inédite de How Do You Sleep? » Et ça, ça vient du Rolling Stone magazine publié le 24 septembre. C'est très, très récent. La vidéo jamais vue auparavant est tirée de la prochaine Ultimate Collection de l'album Imagine, à paraître début octobre. Ça en est passé des affaires il y a une cinquantaine d'années. Hein? Ça revient.
Mine de rien, il me semble qu'on fête beaucoup de 50
de partout,
ans.
Hein?
En 67, il y a eu l'expo.
Mais là, on est un petit peu en avance parce que ça date de 1971.
71, hein, d'accord.
Donc, la scène se déroule la dernière semaine de mai 1971, quelques mois seulement avant la sortie d'Imagine. John Lennon, qui a fait une croix sur les Beatles depuis presque 2 ans, a donné rendez-vous à ses musiciens au Ascot Sound Studios, ses studios maison au sein de Tittenhurst Park à Ascot en Angleterre. Parmi eux, un certain George Harrison, que l'on aperçoit jouer sur la strato bleu clair de John à l'aide d'un bottleneck. Je viens de dire deux, trois affaires qui vous ont fait sourciller un peu, là. Strato, premièrement.
Je ne sais pas pourquoi vous dites ça.
c'est lui. C'est dans le fond, c'est une Fender Stratocaster. C'est le nom
de la guitare, c'est ça. Son petit nom.
Puis quand on parle de bottleneck, c'est une espèce de tube en verre qu'on glisse sur les cordes pour faire un effet un peu comme une guitare hawaïenne.
Ah oui, donc vous nous en avez déjà parlé, je pense.
Quand on parle de slide ou de bottleneck, c'est ce que... Donc, c'est George Harrison qui joue le bottleneck. C'est lui qui assure le solo dans la chanson. Le clip inédit, tourné à l'époque des sessions d'enregistrement de l'album Imagine, dévoile une version plus funky, straight from the studio, non mixée et sans effet, de How Do You Sleep. Est-ce que ça vous dit quelque chose, la chanson How Do You Sleep?
J'avoue que le titre comme ça,
ouais,
non.
On va la faire jouer tantôt, vous allez voir. Si vous comprenez l'anglais, vous allez voir, c'est une belle...
une berceuse?
Pas tout à fait une berceuse, une chanson dans laquelle John Lennon il règle ses comptes avec McCartney. Il est assez cinglant. Donc, un morceau sur certains aspects à charge contre Paul McCartney. Le titre figurera dans l'Ultimate Collection d'Imagine, réédition gorgée de contenu inédit, dont les Raw Studio Mixes promettent des versions sans reverb, ni écho, ni violon, simple et brut. Imaginez-vous chez John Lennon à Tittenhurst Park, il fait nuit, il est fin mai 1971 et vous êtes un invité privilégié, assis au milieu du studio, peut-on lire dans la description. John Lennon est assis en face de vous, il est en train d'apprendre aux autres musiciens une de ses dernières compositions. Il parle, chante et joue avec la même Epiphone Casino, ça c'est une autre guitare à lui, finition bois qu'il a dans Revolution. Si vous avez déjà vu le clip de Revolution, quand les Beatles jouent sur le toit des studios de Abbey Road, la guitare qu'il avait, c'est celle-là. Bon. George Harrison arborant une belle barbe est juste à votre droite. Les paroles qui faisaient notamment référence aux rumeurs sur la mort de McCartney autour de la sortie de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band des Beatles, ou qui semblaient se moquer de la contribution de ce dernier, avaient été interprétées comme une réponse à la dissolution légale du groupe qu'avait entrepris Paul devant la London High Court. Ce dernier avait d'ailleurs reconnu faire référence à son ancien acolyte dans le titre « Too Many People » sur l'album « Ram », paru lui aussi en 1971. Pour résumer, dans le fond, là, c'est que quand les Beatles se sont séparés, Paul McCartney a été obligé de poursuivre en cours les 3 autres Beatles pour pouvoir récupérer ses droits. Suite à ça, il a fait un album solo. Il a fait son deuxième là, sur l'album Ram. Et dans la chanson Too Many People, il réglait un peu ses comptes avec Lennon dans certaines phrases où il disait, par exemple, Too many people preaching practices. Dans le fond, il faisait un peu la morale à John Lennon et Yoko qui prêchaient un peu partout sur la planète, la paix et la guerre.
Et donc, ils se sont un peu... Ils ont réglé leur compte par chanson interposée.
Lennon était un peu froissé. Il a répondu avec « How do you sleep? » Et étant donné que George Harrison faisait partie de la poursuite, il s'est joint à Lennon pour... C'est une vraie petite guerre de cours d'école, là, un peu. Là.
Et c'est vraiment intéressant. Et ça, c'était le McCartney qui n'était plus McCartney, qui avait été remplacé par un sosie. C'est ça dont vous nous parliez il y a quelques semaines.
Qui était supposément mort. Et... Billy Shear, en tout cas. On va revenir à notre article, oui. Donc, pourtant, dans le livre de 120 pages qui accompagnera cette nouvelle édition d'Imagine, John explique « Vous savez, il y a 2 choses que je regrette. L'une d'elles, c'est qu'on dise autant qu'elle parle de Paul. » Ce n'était pas du tout le propos. Quand on l'écoute comme il faut, c'est dur à défendre ça, mais bon. Lui et moi, ça va aujourd'hui. Mes amis restent mes amis, quoi qu'on puisse en dire. Donc, peut-être qu'il réglait ses comptes avec Paul là-dedans, mais c'était amical. Comme des petits coups de poing sur une épaule pour écœurer.
Ouais, c'est ça. C'était des petits comptes de rien, des comptes tout nés, là.
Donc, l'Ultimate Collection d'Imagine coffrait 4 CD, dont les démos et les enregistrements inédits, 2 Blu-ray, le film Imagine, un documentaire ainsi que des interviews de John et Yoko par Elliot Mintz et un livre de 120 pages sortira le 5 octobre prochain. Donc, c'est la semaine prochaine. Et tout de suite, on va écouter la chanson How Do You Sleep? Vous jugerez par vous-même.
Bye.
Alors, effectivement, je pense qu'on reconnaissait un message, un certain message de la part de
l'humour un peu cinglant de John Lennon.
Voilà. Et bien, vous allez tout de suite passer à une autre.
Oui, bien, étant donné, pendant qu'on est dans le sujet, il y a un article dans la Presse Plus qui m'a touché beaucoup parce que c'est Stéphane Laporte. J'aime bien la façon qu'il écrit, premièrement. Puis, deuxièmement, il parle justement de McCartney parce qu'il l'a rencontré la semaine dernière quand il est venu à Montréal. Et ça s'intitule « Mon moment avec McCartney », tout simplement, et c'était publié le 22 septembre. 15 minutes avant de monter sur la scène du Centre Bell, Paul McCartney rencontre quelques fans, moins d'une dizaine, le temps d'une poignée de main et d'une photo. J'ai appris il y a une demi-heure que j'en faisais partie, grâce à mon ami Aldo Giampaolo, mon héros. Je suis en compagnie de Gilles Sainte-Croix, un des fondateurs du Cirque du Soleil, de sa femme Monique, et ma complice, ma précieuse adjointe, Camille. Et c'est à nous. Paul nous salue, souriant, charmant, l'œil coquin, l'œil gamin. Comme un vrai Beatle. On se présente, pas lui, nous. Il me demande de venir me placer à ses côtés. J'avance avec mon scooter électrique. « Nice moped », dit-il avec son accent british. Il place la main sur mon épaule et son photographe prend le cliché de groupe. On le recevra dans quelques semaines. Il est passé 20 heures, il faut y aller. On entend la foule le réclamer dans l'enceinte. Mais je ne peux pas partir sans lui dire un truc important pour moi. Je le regarde dans les yeux, dans ses grands yeux de Fab Four, de ses grands yeux de Cute One, et je sors mon anglais du Sunday. « Your music made me a happy man ». Sa musique a fait de moi un homme heureux. Il sourit et réplique avec son humour british. « Oh yeah, well, good for you. Mais nous, on fait ce métier seulement pour l'argent et la gloire. » Il rit. Et je ris aussi. Et il enchaîne. « Non, c'est faux. Si je fais de la musique, c'est exactement pour ce que vous venez de me dire. Donner un peu de bonheur. Pardon. Je suis content d'avoir devant moi la preuve que je fais bien de faire ce que je fais. » Je lui dis merci. J'ai réalisé le fantasme du fan pour voir dire à son idole qu'elle nous a fait du bien. Quand on a autant reçu d'un être humain, on porte en nous ce besoin de lui faire savoir. Le spectacle débute. It's been a hard day's night. Un réflexe me vient du cœur. J'ai hâte d'appeler ma mère pour lui dire. Ma pensée ne se termine pas. Ma raison l'interrompt. Ma mère est morte il y a 2 mois. Je ne l'appellerai pas. C'est la première fois que je vis un grand instant de bonheur sans pouvoir le partager avec elle. Elle qui aimait
c'est
tant.
C'est tellement touchant, ça.
Elle qui aimait tant Paul McCartney, c'était son préféré. Elle aurait été heureuse que je lui conte ça. Et ça lui aurait fait le plus plaisir, c'est d'entendre dans la voix de son gars toute la joie que cette rencontre lui procure. Elle serait devenue encore plus énervée que moi. C'est ça, une maman. Je suis ému, presque triste. Comme si je réalisais que toutes les grandes émotions, tous les cadeaux du destin à venir ne seront plus jamais les mêmes, ne seront plus jamais aussi grands depuis le départ de maman. Parce qu'elle n'est plus là pour nous doubler d'intensité, pour les doubler de portée. Puis Paul se met à chanter « When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. » Ça va mieux, je sais que ce n'est plus au téléphone que ma mère reçoit mes appels, c'est directement de mon cœur. Darling Camille et moi, on a hâte de recevoir la photo. Quoi qu'il y a du bon à ne pas l'avoir encore, parce qu'on se repasse en boucle le moment dans notre tête. Au lieu de ne voir qu'une image, c'est une impression qui se grave en mémoire. Ce que je retiens, ce sont ses yeux. Les yeux d'un homme bon. De tout près, ils sont encore plus vrais. And in the end, the love you take is equal to the love you make. Il a fait beaucoup de love ce soir, Sir Paul. Et maintenant, je peux me dire ce que je lui... Pardon. Et maintenant, je peux me dire que je le lui ai dit. C'était parfait. Yeah, yeah, yeah.
Wow, c'était vraiment touchant. Hein? Il réussit à... C'est ça qu'il réussit à faire, c'est, Stéphane...
J'aime beaucoup le Stéphane Laporte.
Laporte. Oui. c'est ça, c'est son coup. Il réussit à nous toucher. Merci beaucoup. Et puis moi, ben, je vous amène ailleurs. je pense que vous aurez... Ça va susciter moins d'émotions. Legault veut signer de nouvelles paix des braves avec les Autochtones. Donc, c'est le point de vue donc, du chef de la CAQ. C'est un article que j'ai trouvé sur le Huffington Post Québec le 25 septembre. C'était hier, ça. Alors, il était à Chibougamau, M. Legault, et s'il est élu premier ministre, François Legault marchera dans les traces de Bernard Landry avec l'objectif de conclure une entente de type paix des braves avec d'autres nations autochtones. C'est sûr qu'on s'embarque dans quelque chose qui est gros, qui a déjà été fait avec les Cris. Mais pourquoi on l'a fait juste avec les Cris et qu'on ne l'a pas fait avec d'autres nations? A-t-il lancé en mêlée de presse, donc à Chibougamau, où il était mardi. Moi, je pense que c'est important de prendre le modèle de Bernard Landry et de faire des ententes de nation à nation. Et M. Legault a aussi vanté les mérites de ce type de traité donnant-donnant. Si jamais ça vous intéresse, la paix des braves, moi, je suis allée voir sur Wikipédia. Parce que je me demandais s'il y avait une paix des braves ou si c'était un terme
général. Ouais, c'est une expression.
Ouais. C'est une expression. On appelle paix des braves une proposition ou des accords de paix à des conditions honorables en considération de la bravoure des belligérants.
Bon.
Et cette notion, elle remonte plus loin qu'à notre première paix des braves à nous. Oui, c'est ça, c'est un peu drôle, hein, parce que la bravoure des belligérants, bon, peut-être qu'à l'origine, c'était ça, mais c'était comme une façon, dans le fond, de... Je pense que ce qu'on veut dire, c'est que c'est une façon de dire, c'est pas parce qu'on fait la paix qu'on n'est pas assez fort pour gagner. On est tous les deux forts, mm-hmm. puis on s'entend comme deux personnes braves, deux peuples braves à une entente. Mais donc, c'est ça, ça remonte à beaucoup plus loin que 1701. C'est, ici, on nous parle qu'en 241 avant Jésus-Christ, on parlait déjà d'une paix des braves proposée aux insurgés lors de la guerre des mercenaires. Et là, je ne suis pas allée voir c'était où la guerre des mercenaires. Là, on ne s'étendra pas trop. Mais pour dire que c'est un terme qui existe depuis longtemps. Et on nous dit aussi sur Wikipédia qu'avec des références à l'appui, là, que c'est utilisé de façon générale ici. En Amérique du Nord, avec les Autochtones, et aussi là, en Australie, même en Afrique du Nord, avec les Maghrébins, parce qu'il y a eu aussi des conflits ouais. Qui ont impliqué plusieurs nations. Alors bref, pour revenir à notre article, donc le dirigeant caquiste s'est énergiquement défendu d'avoir sorti ce lapin d'un chapeau au jour 34 de la campagne électorale. Et quand même, moi, je suis contente qu'il ait sorti ce lapin-là parce que je préparais mes articles hier et j'avais
ça
besoin.
Un bon timing.
Il l'a sorti juste au moment où j'en avais besoin. Donc, au cours de laquelle campagne électorale, les enjeux autochtones ont par ailleurs été fort peu discutés et je peux en témoigner effectivement. Il a assuré qu'il en parlait depuis des mois. Avec des chefs des Premières Nations et suggérer que ce projet figurait dans la plateforme caquiste. Je pense que oui, c'est dans le programme, parce que les chefs autochtones ont demandé que ce soit écrit dans notre programme, a-t-il affirmé. Mais l'idée n'est cependant nulle part sur le site Internet de la CAQ, nous confirme le journaliste auteur de cet article. Monsieur Legault avait fait allusion à cette ambition, donc de faire une paix des bras avec tous les peuples autochtones, lundi soir dans un discours militant à Amos, dans le nord du Québec. Je trouve ça drôle qu'il appelle ça le nord du Québec comme région, parce que pour moi, Amos, c'est dans Abitibi, mais ça doit être la même chose. Mentionnant vouloir s'inspirer à ce chapitre de l'ancien premier ministre péquiste Bernard Landry. La paix des braves a été conclue en 2002 entre le gouvernement du Québec et les Cris, on en parlait plus tôt. L'accord historique accorde une autonomie accrue aux Cris pour le développement du territoire, leur développement économique et les ressources énergétiques, forestières et minières.
Oh là, je vis de mort pendant qu'il n'est pas trop tard. Moi, j'arrête là, puis je sors dehors, le soleil brille encore. Wow, là, je vis de bord pendant qu'il n'est pas trop tard. Moi, j'arrête là, puis je sors dehors, le soleil brille encore. J'ai fermé mes réseaux sociaux, ça m'engourdit le cerveau. J'suis tanné de voir la face de ton chien, ton humeur du matin. J'ai vendu ma télévision parce que je trouve le temps long. J'ai l'impression d'être un robot qui bouffe des commerciaux. Wow, là, j'ai de bord pendant qu'il est pas trop tard. Moi, j'arrête là, puis je sors dehors, le soleil brille encore. J'ai éteint la radio depuis que ma langue est un ratio. Toujours les mêmes chansons qui tournent sur les mêmes stations. J'ai chiffonné le journal, je tenais de voir les scandales. Mais au moins, ça me fait du papier pour partir le foyer. Wow, là, j'ai de bord pendant qu'il est pas trop tard. Moi, j'arrête là, puis je sors dehors, le soleil brille encore. J'ai fermé le téléphone, il paraît qu'on m'espionne. J'aime mieux parler aux petits oiseaux, quoi qu'ils ont peut-être des micros. Wow, là, j'ai de bord pendant qu'il est pas trop tard. Moi, j'arrête là, puis je sors dehors, le soleil brille encore. Wow.
soldat, je vais de bord pendant qu'il est pas trop tard. Moi j'arrête là, puis je sors dehors, le soleil brille encore.
Tireux de roche.
Les tireux de roche, vraiment, ah. Là, j'adore ça. On n'était pas sûr, ben c'était oui. Du fou, Richard Desjardins. Non, bref, c'est ce qui met fin à notre émission d'aujourd'hui. On vous retrouve la semaine prochaine. Daniel Lachance, merci beaucoup. Merci beaucoup, Maurice Bolduc, à la mise en onde et aux choix musicaux. Et moi-même, Isabelle Falardeau, je vous souhaite de passer une excellente journée. À la semaine prochaine.